Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute!
Vous vous souvenez de Pénélope ? Pénélope, la femme d'Ulysse, le roi d'Ithaque. Vous savez, dans l'Odyssée, le livre que vous avez probablement dû lire en 6e. Lorsque Ulysse part faire la guerre et terrasser des monstres, eh bien Pénélope, elle l'attend. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans, elle repousse tous les hommes qui essayent de la séduire. Parce que c'est quand même la reine, donc il y a beaucoup, beaucoup de prétendants. Mais Pénélope, elle ne lâche rien. Elle croit dur comme fer au retour d'Ulysse.
La personne que vous venez d'entendre, c'est Iris Ouédraogo. Elle est journaliste chez Louis.
Que se serait-il passé si Pénélope ne s'était pas contentée d'attendre que son mari revienne ? Peut-être aurait-elle régné sur son royaume, conquis des terres, et que l'on se souviendrait d'elle aujourd'hui comme d'une leader hors pair. Ou elle aurait pu tout simplement se remarier et ne pas vivre toutes ces années dans la solitude. Pénélope qui n'attend pas Ulysse, c'est un scénario qui a été imaginé par plusieurs autrices féministes, comme par exemple Claribel Alegria, écrivaine nicaraguayenne et salvadorienne. Elle a inventé la lettre qu'aurait écrit Pénélope à Ulysse si elle s'était remariée au lieu d'espérer son retour.
Mi querido Odiseo, ya no es posible, mas esposo mío.
Mon cher Ulysse, il n'est plus possible, mon époux, que le temps passe et vole et que je ne te dise rien de ma vie à Ithaque. Il y a bien des années déjà que tu es parti. Ton absence fut douloureuse pour ton fils et pour moi. 3 ans ont passé, mais désormais, Ulysse, mon cœur soupire pour un jeune homme aussi beau que toi dans ta jeunesse, aussi habile à l'arc et de sa lance. Il est préférable, Ulysse, que tu ne reviennes pas. De mon amour pour toi, ne reste que des cendres.
Mais dans la version originale du mythe, Pénélope s'est contentée d'espérer des années le retour d'Ulysse en défaisant et refaisant sans cesse la tapisserie qu'elle tissait consciencieusement. En réalité, elle a tout simplement mis sa vie sur pause, attendu, espéré.
Bienvenue dans Émotion. Je m'appelle Adélie Pojman-Pontet. Et aujourd'hui, c'est Iris Ouédraogo qui va vous présenter ce 13e épisode. Iris part explorer ce qui advient quand on ressent de l'espoir, pour découvrir si c'est véritablement, ou non, une émotion positive.
Pour Jonathan Daudet, philosophe, enseignant dans un lycée de Mulhouse et administrateur de la revue d'idées en ligne Un philosophe, l'espoir, c'est ça. Un état d'attente passive où l'on se contente de rêver à une vie meilleure, mais sans agir vraiment pour améliorer notre quotidien. Dans un texte intitulé avec un peu de provocation contre l'espoir, il développe l'idée selon laquelle cette émotion nous empêche de trouver des portes de sortie à des situations qui ne nous conviennent pas, jusqu'à nous rendre même carrément apathiques.
Il y a l'idée que l'espoir est un sentiment positif, Alors qu'en réalité, il me semble que l'espoir est avant tout une passion triste, un sentiment qui est lié à la nostalgie, peut-être à la mélancolie. L'espoir est plutôt pour moi un sentiment qui est le souvenir d'un bonheur passé et qu'on espère soit qu'il pourrait revenir ou alors qu'il n'est plus là et donc qu'il faudrait retourner à une forme de tranquillité, de quelque chose de perdu et pas du tout quelque chose de positif. En fait, comme dit Nietzsche, l'espoir c'est quelque chose qui lorgne sans cesse s'il n'y a pas dans un coin du désespoir.
Pour le philosophe, l'espoir nous conduit à être continuellement frustrés, à ressasser ce que l'on voudrait être ou ce que l'on voudrait faire. Et finalement, à nous rendre continuellement insatisfaits. On espère toujours plus, et forcément, on en oublie de se concentrer sur le présent.
Au lieu de faire, au lieu d'agir, il y aurait l'idée dans l'espoir comme une forme d'attente. C'est ce que je reprenais dans le texte, en montrant qu'en espagnol, attendre, c'est esperar. Quand on attend un bébé, en fait, on l'espère en espagnol. Et quand on attend bébé, d'une certaine manière, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Eh bien, quand on espère, il y a peut-être l'idée qu'il n'y a rien d'autre à faire que de s'asseoir et d'attendre que le temps passe, ou du moins que ça advienne. Je pense aux supporters d'une équipe de foot. Son équipe prend 3-0 à la mi-temps. Il ne peut que espérer le miracle ou quelque chose qui advienne.
C'est comme si, finalement, on se défaussait de toute responsabilité. Bon, eh bien, ma vie ne me plaît pas, mais je n'ai pas vraiment d'emprise là-dessus, puisque ça ne dépend pas de moi, mais du destin.
L'espoir maintient une survie, maintient quelque chose de passif de la vie, d'une sorte d'existence active qui désire véritablement changer les choses, ou en tout cas les maintenir, mais qui se laisse soumettre à ce qui pourrait bien arriver.
Choose hope! Choose hope! Choose hope!
Je veux former un troisième et dernier vœu, un vœu d'espoir. Espoir en nous-mêmes comme peuple. Espoir en notre avenir commun, espoir en notre Europe.
On this day, we gather because we have chosen hope over fear.
Je crois que ça a des répercussions d'ailleurs lorsqu'un homme politique va par exemple dire il faut redonner de l'espoir au peuple, il faut redonner de l'espoir à certaines couches de la population. C'est peut-être l'aveu de leur dire on ne peut rien faire, et il n'y a qu'à attendre que ça passe, il n'y a qu'à attendre que ça vienne. Donc c'est dans le sens-là que j'entends l'espoir de manière passive, c'est-à-dire dans l'idée que c'est une sclérose de l'action, une anesthésie de l'action, et non pas ce que ça devrait être véritablement, une énergie.
Le problème, c'est que bien souvent, on espère des choses sur lesquelles on n'a aucune emprise, comme la paix dans le monde, moins de SDF dans les rues, ou à titre individuel, que notre patron arrête de nous prendre la tête, ou bien que quelqu'un tombe amoureux de nous. Il est très difficile d'agir là-dessus, et on finit par être coincé. C'est ce qui est arrivé notamment à Laura. À l'âge de 18 ans, elle sort d'une relation douloureuse de 2 ans, elle est un peu perdue dans son orientation scolaire et décide de se donner un an avant de vraiment commencer ses études. En attendant de trouver une voie, elle devient hôtesse d'accueil à Paris et s'inscrit un peu par hasard sur un site de rencontre, histoire de passer le temps et de ne plus penser à son ex.
Je me suis dit, bon, il faut que je fasse des rencontres, il faut que je passe à autre chose, donc je me suis inscrite sur un site de rencontre. Je ne l'avais jamais fait avant, j'y croyais pas trop, mais bon voilà, je me suis lancée. Et au bout de quelques jours, je reçois plein de mails de mecs qui ne m'intéressent pas forcément. J'y réponds un peu sans trop y croire. Et un jour, je tombe sur le profil de Sébastien.
Sébastien, à première vue, lui plaît. Mais petit bémol, il a 32 ans. Il est donc beaucoup plus vieux qu'elle, mais ça ne la dérange pas plus que ça. Et puis, Laura est curieuse. Pourquoi un mec de cet âge-là s'intéresserait à elle ? Elle se laisse tenter et accepte de le rencontrer.
Il me remercie tout de suite de lui donner la chance de lui parler. Enfin, tout de suite, il me met un peu sur un piédestal. Il a l'air surpris qu'une fille de mon âge s'intéresse à lui. Et donc, on se donne assez vite rendez-vous dans un bar près de chez moi. Et donc là-bas, il m'a tout de suite plu. Hein. Il est hyper grand. C'est ça qui m'a marqué au début, qu'il est très grand, assez baraque. Et bon, voilà, il m'explique qu'il est policier, que c'est un officier de police judiciaire. Et qu'en même temps, il est en balleur professionnel le soir. Donc il me met un peu tout de suite en garde et il m'explique qu'il ne va pas avoir beaucoup de temps libre, mais qu'il serait content qu'on puisse se voir, se revoir peut-être, voilà.
Laura tique un petit peu lorsqu'il lui dit qu'il ne sera pas beaucoup disponible. Mais elle ne se pose pas plus de questions que ça. Il est très occupé entre son boulot de policier et sa carrière de handballeur. Et puis, il lui plaît beaucoup. Elle tente quand même le coup et ils commencent à se fréquenter plus régulièrement.
Ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'est qu'il avait beaucoup d'anecdotes. Il me racontait son boulot, des arrestations, des cas qui suivaient au commissariat. Donc C'est quelqu'un qui a beaucoup d'histoires à raconter, donc ça m'avait tout de suite plu. Et il m'explique aussi que... parce que moi, je lui pose la question, je me dis, à 32 ans, on a peut-être quelqu'un dans sa vie, c'est pas impossible. Donc, il m'explique qu'il est en pause avec sa copine et qu'ils sont ensemble depuis 14 ans. Donc là, moi, je panique un peu, je me dis, ça fait beaucoup. Déjà, est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce qu'il s'en est vraiment remis? Comment on peut se remettre d'une relation de 14 ans si vite comme ça? Mais je pose pas plus de questions que ça et je me dis, bon, de toute manière, on verra. Et donc, on se revoit plusieurs fois. Et moi, je tombe raide dingue de lui très vite.
Ils s'écrivent beaucoup de textos, presque en permanence, et à chaque rendez-vous, elles s'attachent davantage. Malgré tout, une chose la titille. À chaque fois qu'ils se voient, c'est dans un lieu discret. Un café excentré, le coin d'une rue, ou la voiture de Sébastien.
Je sentais qu'il était méfiant. Je me souviens d'une fois, il m'a donné rendez-vous dans un parking souterrain. Il m'a dit, on sait jamais. Enfin, et je me suis dit, moi, bon, voilà, c'est parce qu'il est policier, il est sûrement un peu parano.
Finalement, Laura finit par comprendre par elle-même que Sébastien s'est remis avec sa copine. Lui ne lui dira jamais frontalement. Et pour ne pas le perdre, Laura ne dit rien. Elle lui fait croire qu'elle gère, qu'elle n'est pas vraiment amoureuse. Elle ne veut surtout pas qu'il prenne peur et s'enfuit. Alors elle réfrène ses sentiments et fait comme si tout allait bien, tout en gardant l'espoir qu'il la choisisse, elle. Pendant ce temps-là, elle doit aussi se plier aux règles très strictes que Sébastien met en place pour que surtout leur relation reste secrète et que sa compagne ne découvre rien.
Après 21h, il est plus trop dispo, il me dit bonne nuit, bon... Et donc, on continue à se voir. Il fait un peu plus attention, il ne me parle pas le soir. Et donc, je comprends après qu'en fait, il a deux téléphones, parce qu'il m'avait donné un numéro, quand on s'était parlé sur Internet, il m'avait donné un numéro en me disant que c'était son portable professionnel. Moi, je ne me suis même pas posé de question pourquoi il me donnait ce numéro et pas le perso. Mais... Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je l'appelle, alors qu'on se parle d'habitude par SMS, et je tombe sur une messagerie humoristique du type, enfin, celle qu'on achète, quoi. Donc, hey, salut, laisse-moi ton message. Donc, je comprends que c'est clairement pas son portable pro du commissariat. Et en fait, bah, il m'explique que tout est bien rodé, puisqu'on se parle juste la journée, parce que le soir, quand il rentre chez lui, il laisse son portable dans la voiture, parce qu'il prend pas le risque que sa femme le découvre. Et... Donc, c'est un peu dur parce que je sais que quand il me dit bisous à demain à 21h, il n'y a aucun moyen de le joindre parce que son portable n'est même pas sur lui. Et moi, du coup, je me fais des films. Je m'imagine qu'il passe des super soirées alors qu'il m'explique qu'il est triste, que ça ne va pas, qu'il ne se touche plus, que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est avec moi et que ce n'est pas juste parce qu'il a envie d'avoir plein de femmes, que je suis la première, qu'il n'a jamais connu ça avant. Et il me promet qu'il n'a qu'un seul jardin secret, donc c'est moi son petit jardin secret. Et voilà.
Laura encaisse. Elle fait des concessions de plus en plus grandes, mais ne dit rien, ne se plaint pas. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a peur de passer pour une hystérique. Il passe la voir 2 heures en fin de soirée, encore alcoolisée avant de rentrer chez lui, ou bien il lui accorde 10 minutes dans sa voiture. Et Laura continue d'attendre qu'il se décide et ne cesse d'espérer qu'il quitte sa compagne.
Et il y a une partie de moi qui me disait, c'est pas possible, vu notre relation, il va finir par la quitter parce que c'est trop beau ce qu'on a. C'est hyper fort. Et d'un autre côté, je me disais, il peut pas la quitter. Ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont en âge d'avoir des enfants, de fonder une famille. Il peut pas tout plaquer pour moi. Mais bon, ça fait 14 ans. En 14 ans, quand même, ils se sont pas engagés. Ils ont pas eu d'enfants. Donc c'est quand même qu'il y a un truc. Il me mettait toujours sur un piédestal et je me disais, bon, bah, ça va aller. Il va finir par prendre une décision. Ça va être moi. Il va la quitter, sa vieille. Enfin, je me disais ça, en fait, à l'époque, alors qu'elle était pas vieille du tout. Mais ça devenait quand même de plus en plus compliqué pour moi d'accepter le truc et surtout de devoir tout garder en moi, de pas pouvoir lui dire à quel point j'espérais qu'il la quitte et compagnie. Et du coup, je devenais un peu chèvre, quoi. Je le suivais, je savais où ils habitaient, je sais plus comment je l'ai su, je pense qu'il a dû me le dire.
De fil en aiguille, Laura se retrouve à le suivre en voiture. Elle se débrouille pour faire des rondes autour de son immeuble, essayer de l'apercevoir, et elle arrive même à observer sa copine par la fenêtre de la cuisine. Elle fait des choses qui ne lui ressemblent pas, s'invente une personnalité pour le convaincre de faire le bon choix.
Ça me faisait beaucoup de mal et je me transformais. Je me suis inventé une passion pour le funk puisqu'il adorait cette musique que je n'aime pas du tout. Mais je voulais tout le temps me rendre intéressante et dès qu'il me disait « Oh, elle m'énerve, elle fait ça », et ben moi, il fallait que je fasse l'inverse, il fallait que je sois autre chose. Dès que je faisais quelque chose, je sais pas, j'allais à une brocante, je lui disais parce que je me suis dit ça va lui plaire. Puis ça m'obsédait beaucoup et surtout j'en parlais à mes amis mais un peu de loin et elles le connaissaient pas. Donc j'avais l'impression d'être dans ma bulle avec mes problèmes, avec ce mec qui était beaucoup plus vieux que nous toutes. Puis il y avait des copines qui comprenaient pas parce qu'il était beaucoup plus âgé. Je suis passée à côté de certaines rencontres sûrement et puis je pense que, je sais pas si c'est lié mais... C'est vrai que ça m'a pas donné confiance en moi et que j'ai pas eu le cran nécessaire de reprendre mes études tout de suite, J'étais un peu spectatrice de ce qui se passait aussi, quoi.
Finalement, Laura arrive à se défaire de cette relation et elle décide de le quitter. Mais pendant des années, ils continuent à se parler par texto. Sébastien persiste à lui dire qu'entre eux, c'est magique, qu'il ne rencontrera jamais quelqu'un qui lui correspond autant. Il finit d'ailleurs par quitter sa femme quelque temps après le départ de Laura. Mais à ce moment-là, elle a refait sa vie, rencontré quelqu'un d'autre et trouvé sa voie. Mauvais timing. Jusqu'à ce que, enfin, 6 ans après, ils se retrouvent tous les deux célibataires et décident de retenter le coup.
On en a beaucoup parlé parce qu'on a essayé de se remettre ensemble peut-être 6 ans après. Là, il y a quelques mois, en fait, quelques années. On a essayé, mais on avait trop changé. Ou alors peut-être qu'on ne se connaissait pas assez, finalement, puisqu'on passait vraiment que des petits moments. On ne dormait jamais ensemble. C'était des bribes d'instants comme ça. Et donc là, pour la première fois, on a eu des moments, des vrais week-ends, des vraies soirées ensemble, un peu comme un couple. On faisait des choses de couple qu'on n'avait jamais fait avant. Du coup, ça n'a pas marché parce que j'avais trop fantasmé cette relation, je pense. Mais on a quand même beaucoup parlé du passé. Et je lui ai dit quand même, tu sais, je t'aimais beaucoup, mais je ne lui ai jamais vraiment dit à quel point ça avait pu m'affecter à l'époque.
À force d'imaginer ce qui aurait pu se passer, de se projeter dans un idéal, l'espoir peut nous paralyser. C'est bien ce que nous apprend l'histoire de Laura. Et c'est bien ce qu'on retrouve dans l'étymologie du mot. Espérer, du latin sperare, c'est le fait d'attendre quelque chose comme devant se réaliser. Mais ce n'est pas que ça, et ce n'est pas toujours ça. L'espoir peut aussi être quelque chose de positif et d'actif. Cela dépend de l'objet de votre espoir. Car certes, Laura espère, mais ce qu'elle espère, que Sébastien quitte sa copine, ne dépend pas d'elle. Quand vous espérez, il ne faut donc pas oublier de vous demander quel est l'objet de votre espoir. En quoi le placez-vous? Est-ce qu'il dépend de vous? Est-ce qu'il est bon pour vous? Et est-ce qu'il est atteignable? Or, ces questions sont très importantes, elles sont centrales même. C'est alors que l'espoir peut se transformer d'une attente passive en une énergie constructive. Ces 25 dernières années, l'espoir a été de plus en plus étudié par des chercheurs qui ont commencé à s'éloigner de cette idée d'attente passive et ont découvert en quoi il pouvait être au contraire une émotion constructive et dynamique. Ils ont compris que ressentir de l'espoir pouvait aussi vous faire avancer grâce à un modèle cognitif élaboré au milieu des années 90 et que l'on appelle aujourd'hui la théorie de l'espoir.
En référence à la théorie qui a été élaborée par Snyder et Lopez, qui sont deux Américains.
Ça, c'est Charles Martin Krum. Chercheur en psychologie et ancien boxeur de haut niveau, il a beaucoup étudié l'espoir et notamment cette théorie.
The psychologist Professor Rick Snyder developed hope theory.
Une personne qui a de l'espoir, c'est une personne qui se fixe des buts, d'une part, et l'espoir est orienté quant à l'atteinte de ses buts.
Les chercheurs qui travaillent sur cette théorie ont mis en place un outil pour mesurer le niveau d'espoir et voir s'il est constructif. Ils utilisent un questionnaire avec 12 affirmations auxquelles les personnes interrogées peuvent plus ou moins adhérer. Si vous n'êtes pas du tout d'accord, vous mettez 1. Si vous êtes entièrement d'accord, c'est 4.
Et ensuite, il y a 2 dimensions dans l'espoir. La première dimension, c'est ce qu'on appelle la composante opératoire. C'est la manière que la personne va avoir d'atteindre ses buts. Plus elle a des manières différenciées d'atteindre ses buts, plus sur cette dimension-là, elle aurait un haut niveau d'espoir. Et la seconde dimension, c'est la dimension motivationnelle. Autrement dit, l'énergie que la personne est prête à consentir pour l'atteinte de ses buts. Par conséquent, on peut avoir 3 scores dans le questionnaire qu'on utilise. Un score d'espoir global et puis ensuite un score pour chacune des 2 dimensions.
Et ensuite, votre niveau d'espoir est évalué sur une échelle de 1 à 4. Si vous êtes bourré d'espoir, vous avez 4. Moi, par exemple, j'ai fait le test et j'ai un niveau d'espoir de 3 sur 4, ce qui est plutôt élevé. Et l'intérêt, c'est pas juste de savoir que c'est cool et que je suis pleine d'espoir, c'est que je peux, et vous aussi, agir dessus pour augmenter mon niveau. Et à quoi ça sert ? À réussir. Parce que ces chercheurs ont établi une corrélation entre le niveau d'espoir d'un individu et son niveau de réussite. Dans le domaine sportif, une étude réalisée aux États-Unis en 1997 a permis de démontrer que les athlètes ayant un niveau d'espoir élevé sont plus performants. Yann Delas, professeur d'EPS et chercheur en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, a mené une expérience similaire afin de démontrer plus précisément ce lien entre espoir et performance sportive. Première étape, il distribue des questionnaires à un groupe d'élèves en STAPS, donc plutôt sportifs, pour mesurer leur niveau d'espoir. Et il sélectionne pour son étude ceux qui ont le plus haut niveau d'espoir et ceux qui ont le plus bas.
J'ai fait venir les élèves dans le cadre d'un protocole, voilà. Et puis, l'idée, c'était que les étudiants soient confrontés 2 fois à la tâche, Une première tâche de pédalage où il devait tenir le plus longtemps possible. Donc il faut savoir que c'est une tâche qui est particulièrement sollicitante sur le plan physiologique.
L'idée, c'est que les élèves doivent pédaler sur une sorte de vélo d'appartement réglé pour que l'effort soit intense. Et ils doivent tenir le plus longtemps possible.
Donc cette puissance, ça correspondait à la puissance maximale aérobie. Donc si ça ne vous parle pas, c'est grosso modo, c'est une puissance sur laquelle normalement on peut tenir environ 6 à 11 minutes, voilà, à peu près.
Après avoir atteint leur maximum, ils sont reçus par Yann Delas qui leur dit qu'ils ont échoué à la tâche. C'est-à-dire que leurs performances ne sont pas bonnes compte tenu de leur âge et de leur capacité physique. Le chercheur les met volontairement en situation d'échec et tout le monde a le même feedback, qu'ils aient un espoir faible ou élevé. Ensuite, ils ont un temps de récupération, volontairement pas assez long, puis ils retournent sur le vélo.
D'accord, donc en fait là, ils sont dans des conditions où ils n'ont pas assez récupéré, donc ils ne vont probablement pas faire mieux que la première fois.
Absolument. On peut même présumer du fait qu'ils vont faire moins bien. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure ils vont faire moins bien et éventuellement si certains vont être en capacité d'améliorer. Ce qu'on constate, c'est que chez les deux groupes, espoir élevé comme espoir faible, il y a une diminution des performances. Chez presque tous les sujets, sauf quelques sujets qui arrivent à augmenter leur performance, mais c'est rare. Et donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a globalement une moindre diminution de la performance chez les espoirs élevés par rapport aux espoirs faibles. Donc, c'est-à-dire que chez les deux groupes, la performance diminue, mais chez le groupe espoir élevé, elle diminue un petit peu moins, particulièrement chez les garçons. C'est un petit peu moins visible chez les filles parce qu'on a des effets de variation, des performances qui sont importants. Par contre, chez les garçons, par exemple, on a constaté qu'il y avait 37% de diminution de la performance de la tâche 1 à la tâche 2 chez les espoirs faibles, alors qu'on n'est qu'à moins 24% chez les espoirs élevés.
Les élèves qui ont le plus d'espoir ont vu leur performance diminuer moins que les autres. L'espoir semble donc surtout avoir un effet sur la capacité à rebondir en cas d'échec, à se remotiver. Sur le long terme, on comprend bien pourquoi quelqu'un avec un fort niveau d'espoir sera plus performant. Il saura continuer face aux obstacles et devenir progressivement meilleur. C'est ce que démontrent plusieurs études, notamment sur des patients atteints de maladies graves comme un cancer. Plus leur niveau d'espoir est élevé, meilleures sont les chances de guérir, car le patient réussit à se fixer des buts et prend davantage d'initiatives pour se sentir mieux. Cela s'observe aussi dans le milieu scolaire. Charles-Martin Krum travaille notamment sur le niveau d'espoir d'élèves et le constat est le même. Plusieurs études prouvent que plus il est haut, meilleurs seront leurs résultats, ils seront moins susceptibles d'abandonner leurs études et auront plus de chances de réussir ce qu'ils entreprennent. La question qui se pose alors, c'est comment intervenir sur son niveau d'espoir ? Que pouvons-nous faire pour l'augmenter ?
Donc on peut intervenir avec les élèves, par exemple, sur leur créativité. La créativité quant à la manière d'atteindre les buts. On peut travailler avec eux sur le sens des buts qu'ils se sont fixés. Et puis bien évidemment, on peut travailler sur les buts en eux-mêmes.
Puisque rappelez-vous, l'espoir, c'est un but et les moyens que l'on met pour y parvenir. Donc, première étape, il faut définir clairement l'objet de notre espoir, notre but. Charles-Martin Krum conseille pour ça un petit exercice de pensée.
Voilà, ce soir, vous allez vous coucher. Imaginez que demain, votre réveil sonne et pour vous, c'est la journée idéale qui commence. Comment ça se passe ? C'est quoi votre journée idéale ? Vous êtes habillé comment ? Vous commencez par quoi ? Vous allez où ? Vous y allez comment ? Et ainsi de suite. Là, on essaye de définir vraiment une vie idéale, quoi. Dans le principe, ce serait un petit peu comme si on rêvait sa vie pour ensuite vivre son rêve, quoi. J'aurais tendance à reprendre un peu ces mots-là. Et une fois que ça a été déterminé, ben, on va travailler sur l'accompagnement de la personne, sur comment faire, comment s'y prendre.
Se représenter clairement l'objet de notre espoir permet d'avoir plus de chances de réaliser nos buts, mais aussi de ne pas se tromper de direction. Charles-Martin Krum m'a donné l'exemple de son fils. Très jeune, il pratiquait la boxe française et faisait beaucoup d'efforts pour s'améliorer et devenir le meilleur.
Quand il était petit, il faisait de la boxe française. Et moi, j'ai entraîné en boxe française pendant assez longtemps. Puis un jour, je lui ai dit, tu sais, Benjamin, si tu fais de la boxe, c'est pour toi. C'est pas pour moi. Et je lui ai dit, moi, t'es mon fils et je t'aime parce que t'es mon fils, pas parce que tu fais de la boxe. Il a arrêté la boxe. Il avait 8 ans à l'époque.
Le but du fils de Charles-Martin Krum n'était pas le bon pour lui à ce moment-là. Il voulait faire de la boxe pour faire plaisir à son père. Or, pour espérer de manière constructive, il faut avoir un but en adéquation avec ses propres désirs, et non pas, au hasard, ceux de ses parents.
Quand il était en la phase d'orientation scolaire, il voulait faire médecine. Donc ça, c'était son plan. Je l'ai fait travailler sur un plan B. Et son plan B, c'était de travailler dans les métiers du sport. Et là, bis repetita, quoi. Je lui ai dit, attends, tu sais, je t'aime parce que t'es mon fils. C'est pas parce que tu vas faire STAPS que je vais t'aimer plus ou moins, ça n'a rien à voir. Et là, on a défini ce projet qu'il avait potentiellement de faire STAPS. Effectivement, c'était réellement quelque chose qui l'animait, parce que lui, depuis très longtemps, ce qui donne du sens pour lui, c'est d'être au service des autres. Et il se trouve que quand il a démarré médecine, il a tenu en fait 2 mois et ça lui a pas plu. Alors, c'était pas un pis-aller de faire STAPS, c'était quelque chose vraiment qui lui plaisait. Et il a pu enchaîner derrière.
On voit donc qu'il est primordial de bien définir ce que l'on espère, mais aussi de préparer un chemin différent, au cas où le plan de départ ne se passe pas comme prévu. Bref, il y a plusieurs manières de concrétiser son espoir. C'est en cela que l'espoir constructif se différencie de l'optimisme. Dans l'espoir, on définit ses buts et les stratégies pour y parvenir. Cela nous permet d'agir pour que les choses se passent bien. Alors que l'optimisme, c'est plutôt une vague intuition qui n'est pas vraiment suivie d'action. Et c'est la raison pour laquelle l'espoir, dans le domaine sportif, permet d'améliorer ses performances. C'est ce qu'a constaté Virginie Dedieu, championne du monde de natation synchronisée. Elle a toujours eu un grand espoir en ses chances de gagner les plus hauts titres. Elle a commencé ce sport, un peu par hasard, à l'âge de 6 ans, dans le petit club d'Aix-en-Provence. Et très vite, elle se démarque de ses coéquipières.
Vraiment, le but pour mes parents, c'était de faire du sport pour s'amuser, pour se défouler, pour se dépenser, parce qu'ils estiment que les enfants ont besoin de faire du sport tous les jours. Et du coup, j'ai vraiment accroché. C'est vrai que ça a été quelque chose de très naturel, très vite. Et donc, j'ai commencé à 6 ans et demi. Et j'ai fait de la danse classique juste l'année d'après aussi.
3 ans après ses débuts, Virginie Dedieu termine première en compétition individuelle, alors qu'elle a plusieurs années de moins que certaines de ses concurrentes.
Donc forcément, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Et l'espoir, il est aussi quand on regarde les plus âgés dans mon club. Donc il se trouve qu'à ce moment-là, quand j'étais minime, il y a eu un pôle qui s'est ouvert à Aix-en-Provence. Donc on a vu des filles juniors arriver qui étaient susceptibles de rentrer en équipe de France. Donc on les regarde et on se dit, mais moi je veux faire pareil ou je peux faire pareil. C'est vrai que je pense que j'ai jamais eu la notion de c'est impossible, comme certaines filles. Donc c'est la possibilité de, le rêve de, et de se dire, mais c'est possible, je n'y arrive pas aujourd'hui, mais je vais le faire, quoi. Donc c'est venu au fur et à mesure, personne ne m'y a obligé, c'est l'envie, l'exemple et le plaisir de ce sport que je trouve beau, et c'est très vite pas beau quand on ne maîtrise pas. Donc forcément, il faut se donner les moyens après de se dire, pour arriver à faire ça, il faut quand même réfléchir, savoir comment faire et travailler, quoi.
On voit bien qu'à l'inverse du fils de Charles-Martin Krum, qui a pratiqué la boxe très tôt pour plaire à son père, Virginie, elle, a tout de suite pris plaisir à aller à ses entraînements. Elle le faisait pour elle, avec ainsi la possibilité de créer un espoir durable et sain. Et la présence de modèles et d'exemples positifs de nageuses dans son club n'a fait que renforcer cet espoir, car elle pouvait se projeter. Virginie Dedieu vit synchro, mange synchro, dort synchro. Elle continue à aller à l'école, mais forcément, elle passe beaucoup de temps en entraînement. Résultat, elle sacrifie ses sorties, ses loisirs, pour pouvoir progresser. À 15 ans, elle partait déjà en déplacement au Japon avec son équipe pour se mesurer aux meilleures nageuses de son âge.
Donc je suis rentrée en équipe de France Espoir à l'âge de 93-14 ans. J'ai fait les 2 années d'après les juniors et donc j'ai été détectée pour éventuellement faire les Jeux Olympiques à Atlanta en 96. Et en effet, je suis rentrée en équipe de France à l'âge de 17 ans. Donc, j'ai dû partir de chez mes parents à l'âge de 16 ans. Donc là, ça s'accélère, en effet. C'est forcément un autre niveau et une concrétisation de se dire tu peux faire vraiment des grosses compétitions et des gros objectifs dans ce sport-là. C'était un objectif en soi, bien entendu, de se sélectionner sur cette équipe-là. Mais comme j'avais que 17 ans, finalement, je m'étais bien dit que ce ne serait pas les seuls et qu'en dehors de faire une performance au jeu de finaliste, c'était aussi au-delà et peut-être plus tard d'avoir un jour une médaille. Donc c'était vraiment une étape, une préparation. Et voilà, je prenais les choses au fur et à mesure, ça c'était important aussi, quoi.
Virginie garde bien en tête son objectif, être la meilleure et rentrer dans l'histoire. Et la première médaille olympique en duo arrive aux Jeux de Sydney. Elle a alors 21 ans et encore une fois, elle conserve cette envie de toujours aller plus loin, de collectionner les médailles. Pour se conditionner à réussir, elle élabore donc des stratégies mentales pour garder espoir.
Bah oui, parce qu'on a la préparation dans l'eau, donc palpable sur le moment, mais bien sûr, on doit se mettre dans un bon état. Et la visualisation, c'est quelque chose que j'ai fait très vite et spontanément. Donc on a deux systèmes de visualisation. C'est où on est spectateur de son programme. Donc on a comme si on avait une petite caméra autour et on se regarde faire. On s'imagine faire plutôt bien, il vaut mieux. Et après, c'est dans l'autre sens, la sensation intérieure. Donc on fait les mouvements et on a la sensation de la correction. C'est-à-dire, si on penche à gauche, bah, il faut penser à tirer à droite. Donc ça, c'est vraiment intérieur et la sensibilité de chaque mouvement.
Comme le préconise Charles Martin Krum, Virginie de Dieu visualise ses buts, les gestes parfaits qu'elle doit absolument réussir pour devenir la meilleure et remporter les plus grands titres.
La nageuse représentant...
Et ça marche. Elle décroche la première place au championnat du monde de 2003 et tente un exploit jamais réalisé à l'époque. Enchaîner deux titres de championne du monde. Après ce sacre, promis, elle arrête. Elle a entrepris des études en école d'architecture d'intérieur et souhaite valider son diplôme, ce qui serait incompatible avec ses entraînements quotidiens.
Donc moi, j'avais vraiment programmé ça dans l'expérience aussi des autres, où je savais que j'allais avoir un manque quand même, et qu'en faisant mes études qui me plaisaient aussi beaucoup, je m'étais dit, bon, tu ne vas pas trop avoir de manque, ça va bien se passer.
Au début, la natation ne lui manque pas trop, parce qu'elle est partie avec un deuxième titre de championne du monde, satisfaite de sa performance. Par ailleurs, elle valide son diplôme à Paris, décide de se réinstaller dans le sud avec son conjoint. Et puis, elle continue un peu à nager avec son club, organise des stages d'été en natation synchronisée pour des jeunes. Mais voilà, en voyant ses anciennes coéquipières s'entraîner, ou en coachant ses élèves, de plus en plus d'idées de chorégraphie lui viennent en tête.
Et donc là, je m'aperçois de choses. Enfin, quand on est de l'autre côté du bassin, on comprend différemment. Et je me dis, mais si je l'avais pensé comme ça, ce serait aller plus vite si je faisais les choses comme ça. Donc encore des possibilités ou d'une réflexion dans l'entraînement qui se fait. Et en fait, en mois de septembre, je pars voir mes copines de l'équipe de France qui est en Coupe du Monde au Japon. Et là, par contre, en effet, dans les gradins, je me dis... de toute façon, c'est la compétition qui manque le plus plutôt que le quotidien. Donc c'est pour ça que mon année s'était très bien passée et je n'avais pas eu de manque. Mais quand j'arrive à cette compétition-là et que je vois les autres, il y a un peu la boule au ventre et me dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas de l'autre côté ?» On se sent un peu impuissant. Et puis des idées qui émergent, des idées qui n'ont jamais été faites, encore une fois, des difficultés.
Peu à peu, l'espoir renaît en elle. Sa carrière de nageuse n'est donc pas tout à fait finie. À 28 ans, elle replonge dans le bassin et décide de reprendre l'entraînement. Elle a alors seulement 4 mois pour se remettre à niveau et tenter de remporter un troisième titre de championne du monde d'affilée. Une première dans sa discipline. Virginie de Dieu doit s'entraîner seule. La fédération ne voit pas d'un bon œil ce comeback qui chamboule l'organisation du club.
Et après, à partir du moment où on se dit « Ok, on y va », par contre, là, il ne faut rien lâcher. Et l'espoir, il est forcément là, parce que sinon, on n'aurait pas repris. Ça ne sert à rien. Si on n'y croit pas, c'est le moteur. Donc, faut se donner après, par contre, à fond pour se dire « J'ai décidé quelque chose et j'y vais ». Parce que ce n'est pas juste, encore une fois, faire pour faire. C'est encore une étape. J'avais que 4 mois, une autre préparation et une concrétisation courte à réaliser.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3.
La prépa physique, je la faisais au Krebs, à côté de la salle avec le médecin qui faisait ses visites médicales. Et à des moments, je faisais des grosses séances sur le rameur. C'est ce que je faisais avant, donc j'ai repris mes prépas physiques. Et c'est vrai que il y a plusieurs fois, il m'a dit que je le gênais pour le bruit, qu'il m'a demandé d'aller dehors, donc au mois de décembre, aller dehors avec ma machine, voilà. Sachant que c'est des moments très intenses où habituellement à l'INSEP, j'avais le préparateur physique qui me poussait, qui me soutenait en tout cas, pour pas que je craque. Là, j'étais toute seule et c'est des prépas où on a envie de vomir parce qu'on se met carpette, en gros. Et du coup, là, je me suis bien dit, c'est les derniers et t'avais besoin de reprendre, mais ça suffit aussi, quoi. Donc c'est tout ce cheminement-là qui fait que finir bien, donc l'espoir de réussir et d'avoir un troisième titre te maintient et te guide et d'y croire forcément, même quand on arrive sur place au championnat du monde où tout s'effondre, parce que quand on voit ses concurrentes, on se trouve la plus nulle et c'est compliqué.
Le jour du championnat, Virginie de Dieu passe en avant-dernière, juste avant sa concurrente directe. C'est la pire position possible, car les jurés ont tendance à se lâcher et à donner plus facilement des 10 à la dernière qui passe. Virginie entre en scène. Elle porte un maillot noir avec des paillettes sur le torse en forme d'étoile. Pour son dernier tour de piste, elle a choisi une chanson interprétée par Maria Callas. Une manière de donner le ton, de s'imposer. En incarnant une personnalité forte, une diva pour impressionner ses concurrentes et aussi asseoir sa légitimité. Pour s'imprégner du personnage, elle est allée jusqu'à prendre des cours de théâtre. Et c'est une réussite. Elle plonge dans l'eau et réalise un sans-faute, ou presque. Elle ne reçoit que des 10, sauf une note, un 9,8.
Tout le reste était 10 et 9,9, mais moi je focalise sur celui-là et je me dis c'est mort. Donc pareil, dans l'esprit où je m'étais dit prépare-toi à perdre. Là, sur le moment, je me suis dit, de toute façon, tu feras deuxième. Ta performance, elle est telle qu'elle est. T'as fait quand même ce qu'il fallait. Et elle va passer. Il y a la place. C'est possible qu'elle gagne.
Sa concurrente plonge à son tour. Virginie de Dieu regarde sa prestation, anxieuse. Les secondes paraissent des heures. Et finalement, c'est le soulagement. Sur l'écran du bassin, un petit 2 s'affiche à côté du nom de sa concurrente. Elle sera donc deuxième et Virginie première. Ça y est, elle a gagné son troisième titre de championne du monde et créé l'exploit.
Oui, là forcément, ça valait le coup. En finissant comme je l'ai fait, j'aurais regretté de ne pas avoir repris, bien entendu. C'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. Je pense que j'ai encore apporté des choses pour mon sport à ce niveau-là. Donc, aucun regret. Le fait de vouloir continuer après, fatigue morale, physique, donc ça m'a concrétisé que mon corps en avait besoin à ce moment-là. Mais ouais, le soulagement, après, c'était une autre histoire parce que, comme justement dans l'organisation, c'était encore vraiment différent des autres années où j'étais beaucoup plus fusionnelle avec mon entraîneur et là, pas spécialement. Cette reprise-là, je l'ai créée plus avec mon futur mari, mon copain. Et on a finalement débuté une histoire familiale avec ce programme-là. Et d'ailleurs, quand le résultat est tombé, c'était une des premières compétitions, des rares compétitions, la seule même, où les gradins étaient vraiment jusqu'en bas du bassin. Et j'ai pu courir, aller partager ma joie avec lui. C'était quelque chose d'assez fort et qui était important pour nous. Voilà.
Après cette ultime victoire, elle prend définitivement sa retraite sportive. Aujourd'hui, Virginie Dodieu est architecte d'intérieur près d'Aix-en-Provence. Elle continue d'entraîner de jeunes nageuses l'été et de créer des chorégraphies pour des équipes à travers le monde.
Et après, chez les jeunes, les toutes petites, de vraiment leur faire comprendre. Encore plus, je trouve, dans notre période où on a Internet et on a tout de suite, et on veut cette génération-là, et on le voit dans les clubs, c'est vraiment de plus en plus compliqué à les pousser à la performance. Et malgré tout, grâce au sport, on se rend compte tout de suite qu'on ne peut pas se laisser aller et que la performance, elle est due au travail et parce qu'on y croit, parce qu'on a envie, parce qu'on a l'espoir de faire mieux, de faire ou différent ou quelque chose de nouveau, que ce soit dans n'importe quelle discipline, hein, et sportive et professionnelle. Mais c'est de se donner les moyens parce que sinon, ça ne marche pas de toute façon. Et la performance sportive, elle nous la montre immédiatement. Le travail paie toujours à un moment donné. Et ce travail-là, il va être là si on y croit, si on avance et si on partage un espoir et un objectif.
Virginie de Dieu l'a bien compris. L'espoir peut nous donner des ailes dès lors qu'on travaille pour et qu'on l'oriente dans une direction que l'on a choisie en toute connaissance de cause, que l'on sait être bonne pour nous et atteignable. Alors Pénélope, si tu nous écoutes, on pose ses aiguilles, on dit oui ou non aux prétendants. On arrête d'attendre le retour d'Ulysse et on devient maîtresse de son espoir.
Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Cette émission a été réalisée par Iris Wedraogo avec l'aide de Maud Ventura et de Maud Benakcha. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. La création sonore a été réalisée par Nicolas Vert et Claire Cahu. L'enregistrement par Tristan Mazir et le mixage par Jean-Baptiste Bonnet. Merci à nos interlocuteurs, Jonathan Daudet, Charles-Martin Kroum, Yann Delas, Virginie Dedieu et Laura. Vous pouvez écouter Émotion sur toutes les applications de podcast comme iTunes ou Google Podcast par exemple, ainsi que sur YouTube, Spotify et SoundCloud. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, @émotionpodcast, émotion avec un S, sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous avez une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2024, ce sont les 70 ans de la fin de l'Indochine française. Et aujourd'hui, plus de 150 000 personnes en France ont, comme moi, un de leurs parents né en Indochine.
J'ai côtoyé la mort tout le temps, jusqu'à ce qu'on parte en France. Mais on a vécu avec le bruit de la guerre d'une façon quotidienne. Et je crois que si je ne dors pas, même maintenant si je ne dors pas, mais parce que ça m'est resté. Tous les bruits qu'on entendait, puis qu'on avait peur, je crois qu'on ne dormait jamais.
Je suis Anaë Bosser et dans Ma Tonkinoise, je tire le fil de mon histoire familiale, de Saïgon en 1954 à Marseille en 2024.
Mais ce qui me frappe en ce qui concerne la guerre d'Indochine, c'est comme si je dois faire une autopsie d'un oubli.
Découvrez Ma Tonkinoise sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.